C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 70. Au sommaire aujourd'hui, Sylvie Payette, une autrice alliée de nos communautés, elle explore les amours entre femmes dans un monde futuriste dans sa série Alizée. La chronique aux petits soins avec Gengis Grenier, l'accès aux soins pour les personnes trans. Un soir d'été de Philippe Besson et un roman sans rien d'Antoine Charbonneau-Demers à lire, c'est queer avec Brian Saint-Louis. Et on vous mène en bateau à la chronique Voyage à voile et à vapeur avec Pascal Chalmel. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, du 1er avril 2024, c'est la journée du poisson d'avril et le lendemain de Pâques. Fait que ça vous dirait pas un petit poisson au chocolat, non?
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Bonjour tout le monde, bien nous recevons aujourd'hui une autrice très connue. Vous connaissez ça, Chambranville, je suis certain. Et combien de livres depuis? Sylvie Payette, c'est aussi une grande alliée de nos communautés de longue date. Dans sa série la plus récente de romans Alizée, que j'ai eu le bonheur de lire récemment, c'est une romance avec des teintes très, très, très queer, très lesbienne, très gay, et ça nous surprend. Sylvie Payette, bienvenue à l'émission.
Ben écoute, c'est bienvenue, merci surtout de m'inviter, c'est formidable, je suis très contente.
Alors, on a une tradition, quand on a une nouvelle invitée, on lui demande quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
Ah ben, c'est elle.
Les accords féminins.
Oui, tout en féminin. Oui.
Oui, pas de problème.
Je trouve ça formidable que les gens puissent maintenant le dire comme ça au départ.
Oui.
Mais je pense qu'il faut aussi assumer quand c'est elle, elle.
Écoute, tout à fait.
Plus rien.
Puis moi, c'est lui, il. Pas chose. Bon, OK, on y va. Alizée, trois tomes. Parle-nous de ce roman, de cette série de romans.
Écoute, ce dont j'avais envie dans ce roman-là, c'était d'imaginer un monde futuriste, on peut le dire, même si c'est quand même un punch dans le premier tome, parce qu'on se demande où ces deux pauvres filles ont abouti.
On va pas divulgacher, mais vas-y, résume un petit peu.
Regarde, c'est juste que c'est une des filles, son papa travaille pour l'armée canadienne et se prépare depuis 3 ans à partir en mission. C'est secret, personne ne sait c'est quoi. Et par accident, au moment du départ pour la mission, c'est les deux jeunes filles qui se retrouvent à partir à la place des scientifiques qui avaient été formés. Donc, ils se retrouvent quelque part, elles n'ont aucune idée c'est quoi, ni rien. Elles sont obligées de faire face à un monde qui vit dans une température insupportable où tout est revenu. Ce que j'ai voulu, c'est de faire un endroit où tout est revenu à la base, aux choses simples, à l'amitié, à la solidarité entre les gens. Tout est revenu donc aux sentiments, mais aussi aux activités de base, accepter chaque jour un après l'autre, en profiter, profiter de la pluie, tu sais, des choses comme ça. Mais je me suis dit, dans ce monde-là, j'ai eu envie que les choix de chaque individu soient respectés par tous. Que ça ne soit plus un monde basé sur une bille, ce que tu voudras, c'est-à-dire les hommes, les femmes. On voit souvent ces trucs-là dans les choses du passé ou du futur, ou dans des dystopies. C'est souvent les gars, les filles sont chacun de leur bord, puis il y a un amour qui se développe. J'ai eu envie de dire, et si enfin on était capable de créer une nouvelle société, suite à un événement que les filles vont découvrir, il y a un événement qui fait que la société se retrouve dans cet état-là. Le monde, en fait, se retrouve dans cet état-là. Ça parle beaucoup des problèmes climatiques.
Oui.
C'est le thème de base. Et je me suis dit, si on était capable de créer un endroit où ces choses personnelles soient normales, acceptées. Alors, à un moment donné, il y a un gars qui dit, personne ne va te poser de questions. Je peux y aller avec toi, je peux y aller avec deux filles, deux gars, trois filles. Personne ne va juger ma décision. Et pour moi, c'était important d'essayer d'imaginer cet univers-là. Alors, j'ai eu envie, je te l'ai présenté en disant, j'aimerais ça avoir ton avis, parce que moi, je suis quand même un auteur qu'on peut décrire comme normalement dans la romance hétéro.
Oui.
C'est quelque chose que j'adore, mais j'ai toujours intégré des transgenres. J'ai beaucoup aimé mettre ça en personnage secondaire. C'est peut-être la première fois où je vais un petit peu plus loin.
Oui.
D'un autre côté, hey, j'arrête pas de parler, je suis plus rien.
Non, c'est tout à fait.
C'est parce que notre ami, là, sa voix, il a sa petite voix de fin de soirée parce qu'il y a un petit virus, alors
oui.
Je vais pas trop le faire parler.
Non, ça va très bien, je suis capable de fonctionner.
Je vois bien.
Mais ce que j'ai trouvé, j'ai ri parce qu'on se connaît de longue date, toi et moi, puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qui est passé par la tête cette journée-là?
Laquelle?
je lisais, et puis... Je ne vais pas divulgâcher, mais Moi, ça m'a vraiment surpris que tu t'envoies dans ce monde. Puis on parle de même. On va parler là, de quelque chose qui est à la base de ce roman-là, c'est les changements climatiques qui fait que les gens doivent réapprendre à vivre.
Oui, totalement.
Totalement, là.
Ils doivent créer une nouvelle société avec, au départ, essayer
c'est
de ne
pour
pas
toi
recréer.
Ça. C'est pour ça que j'étais surpris.
Oui, recréer une société au départ, c'est-à-dire ce qu'on retient du passé, parce qu'ils connaissent le passé, ils savent qu'est-ce qu'il y avait comme société avant. Et ils se disent, OK, maintenant, on va essayer de rebâtir. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils recommencent tout à zéro. Les maisons sont en bambou. Ils sont vraiment revenus à point de départ. Mais où finalement, c'est agréable. Finalement, cette façon de vivre où on s'écoute les uns les autres, où tout le monde, évidemment, il leur arrive des aventures, des rebondissements. Mais ce qui était très important pour moi, puis qui me faisait plaisir de venir te parler de ça, parce que je crois qu'on arrive maintenant à ce moment de la croisée des chemins où j'ai pensé faire mon personnage principal, lesbienne. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Il y a des auteurs lesbiennes qui écrivent des romances lesbiennes vraiment excellentes, qui sont très, très bonnes et qui n'ont encore pas assez de place, selon moi, sur le marché du livre, chez les éditeurs. C'est pas encore... ça commence, c'est bien. Mais tout à coup, je me suis dit, non, moi, je vais faire un personnage. C'est pas un personnage secondaire, vraiment, mais c'est le deuxième personnage principal. Et... je me suis dit, c'est important d'en parler parce qu'on arrive à un moment où, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus d'éditeurs nous demandent à nous « et ça ne tenterait pas que ton personnage principal soit gay » ou « il ne pourrait pas avoir eu des hésitations dans sa sexualité, ouais. Être bi ». Je l'entends, on m'en parle à moi, mais je l'entends de d'autres auteurs qui me disent « ah oh, ben finalement, je vais avoir une romance gay parce que mes personnages... » et je me rends compte qu'on le demande, selon moi, pas aux bonnes personnes.
Te sentais-tu comme une impostrice d'avoir...
Oui, oui? Oui, je me suis dit, quand on parle de comment on appelle ça quand on fait de la...
L'appropriation?
Oui, l'appropriation culturelle. Mais là, je suis arrivée à ce point de me demander, oui, mais est-ce que c'est pas de l'appropriation si je fais un personnage principal? C'est une question, il faut qu'on s'en parle, tu sais.
Est-ce que tu as senti ça dans la réception de tes romans? Est-ce que les gens t'ont fait entendre que ce que tu avais écrit, c'était de l'appropriation culturelle?
Non, jamais. Jamais. Mais je n'ai jamais eu un personnage principal.
Oui.
C'est-à-dire que dans Lola, les choix de Lola, par exemple, elle rencontre un transgenre qui est un ruru pendant son voyage en Polynésie française, et c'est la personne qui va lui donner le courage de se prendre en main puis de s'accepter comme elle est. Avec tous ses défauts, en lui explique que les déesses, si on regarde la femme de Zeus, toutes les déesses, c'était des espèces de femmes
donc, en mettant
immenses et complètement caractérielles.
En mettant le personnage queer plus en personnage secondaire,
oui.
ça rendait la tâche facile pour toi.
C'est pas que c'est plus facile. Je pourrais sûrement, parce qu'on m'a déjà proposé, par exemple, je te dirais pas qui, c'est un de tes amis, mais de mettre un faux nom puis d'écrire mes romances, la même chose, mais en mettant deux gars. Puis j'avais dit, ben oui, pourquoi pas, moi, j'imagine que je serais capable. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'amis lesbiennes en plus, donc
mais
je me sentirais à l'aise.
Mais tu sais qu'aux États-Unis, les romances hommes, c'est des femmes hétérosexuelles qui les écrivent. Hein?
Oui, je sais, sous des faux noms, souvent. Ouais. Mais c'est correct, tant mieux. Mais en même temps, je me suis dit, non, on arrive au moment où je trouve que, tu sais, j'écoute ton émission, là, puis je me dis, j'aimerais ça qu'elle soit à Radio-Canada, ton émission, là. Excusez-moi, je ne vais pas faire de chicane.
On est bien ici à Canalem, on est très, très, très bien.
Ah, ben tant mieux.
Oui.
Mais c'est dans le sens que je trouve qu'il y a, c'est ça, on est arrivé à un moment, effectivement, où ça serait intéressant d'avoir cette discussion. Je pense que si je mettais un personnage gay principal dans une de mes histoires, parce que je raconte l'histoire d'une amie, par exemple, et je décide qu'avec son accord, je vais raconter son histoire, ça va. Mais en écrivant à Lisée, j'ai réalisé que c'est une question à se poser. En même temps, c'est pas le personnage principal, mais, tu sais, on a cette question à propos des personnes qui viennent d'ethnie. On a cette question pour les personnes qui ont vécu des choses dans certains pays. Et je me dis, ben Ça devrait être aussi une question. Je me dis, on est peut-être rendu au moment où il faut se poser cette question. Alors, je voulais te dire ça, mais je voulais aussi dire aux gens qu'on trouve de plus en plus d'ouverture dans les livres, dans les romances aussi, dites « hétéro », entre guillemets, parce que je vois de plus en plus d'auteurs qui, effectivement, impliquent des personnages, souvent des personnages principaux, des fois des personnages secondaires. Chez les jeunes, on va en trouver vraiment beaucoup.
Mais moi, j'aimerais t'amener sur un autre terrain. Ce que tu écris, ce sont des romans qui sont aussi pour un public jeune.
Oui, c'est jeune public. C'est ce qu'on appelle du jeune adulte. Tu sais, si on peut comparer ça un petit peu à Hunger Games ou des trucs comme ça, où j'aime bien cet âge où les gens sont assez extrêmes, mais les personnages qu'ils rencontrent ou l'aventure peut être avec des adultes aussi.
Quelle question de réaction tu as eue? Parce que c'est quand même surprenant d'avoir ce genre de personnage de la part de ton public.
Non, pas du tout. Moi, je dirais, les jeunes aujourd'hui, non, vraiment, c'est tellement extraordinaire leur en parler. Là. Je sais pas qu'est-ce que les parents font comme travail, mais ils font bien. Je dirais que la majorité des jeunes qui viennent... écoute, j'en ai autour, à un moment donné, tu dis, bon, mais le personnage, ta, est lesbienne, ah bon, mais c'est parfait. Ils sont très ouverts, là, aux jeunes au Québec. Alors... Faut continuer dans cette voie, parce que pour eux, toutes ces choses-là sont parfaitement normales.
Vois-tu ce que tu fais, parce que tu t'adresses à un public très large, vois-tu ce que tu fais un peu comme un rôle... d'éducation, peut-être, d'être agent de changement?
Oui. Honnêtement, oui. C'est-à-dire, quand j'ai pensé à mon monde futur, j'ai rêvé d'un monde futur. J'ai beaucoup d'amis qui ont souffert. Tu sais, j'ai un certain âge maintenant. J'ai vu beaucoup de choses de désagréables envers des amis là, qui ont souffert d'être gays ou lesbiennes ou d'avoir une identité avec laquelle ils n'arrivaient pas à trouver une place dans la société. Je les ai vus être critiqués, être blessés, être tout ce que tu veux, frappés. Et quand j'ai pensé à mon univers, j'ai eu envie de montrer aux gens, et si on était capable, dans une société comme celle-là, où il n'y a plus de religion, parce que je crois qu'il y a une partie de tout ça qui vient de ça, et qu'on était capable de laisser à chacun la possibilité d'être ce qu'il est et apporter ce qu'il a apporté, parce que ces personnes-là apportent. Énormément. Dans la société, il n'y a pas... voilà. Fait que c'est pour ça. Oui, il y a une question. J'ai toujours fait un petit peu d'éducation, tu sais bien.
Ben oui, mais comme ta mère, d'ailleurs, Lise Payette, faisait ça aussi. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais ça te demander, c'est quoi tes prochains projets, et surtout des projets qui vont inclure nos communautés? Qu'est-ce que tu as en tête, là?
Écoute, j'ai une romance, mais extrêmement... hétérosexuel qui s'en vient. Mais j'ai un roman jeunesse qui, je pense, qui risque d'être intéressant aussi à ce niveau-là, parce que c'est un roman jeunesse, une série avec trois jeunes, et c'est un trio où la fille est amoureuse d'un gars qui est amoureux de l'autre gars qui est amoureux de la fille. Donc, c'est un trio au départ où on est dans un triangle amoureux, c'est un cercle terrible. Et ben ouais, c'est ça. Éventuellement, ils vont finir par trouver un ordre qui marche. Un ordre qui fonctionne pour tout le monde. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans le décor qui va permettre que tout ça fonctionne, mais que tout le monde soit heureux. Mais oui, effectivement, tu me fais penser que dans celui-là aussi, il y a cette image donc de versatilité. On est tous différents. C'est tellement simple. Et pourquoi je suis comme ça? Ben écoute, je suis née dans une famille qui était au départ très ouverte.
Oui, mais et j'étais entourée. Puis t'as une sœur lesbienne aussi.
J'ai une sœur qui est lesbienne et j'étais entourée de gens aussi. Alors, oui. C'est comme ça.
Sylvie Payette, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Et je rappelle que Sylvie va être à Fierté littéraire cet été.
Oui,
dans le cadre
plaisir.
De Fierté Montréal. Elle sera mentor dans le cadre de l'activité qui s'appelle Queer Academy. Merci Sylvie.
Merci beaucoup.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Au petit soin.
Attention, code rouge.
Avec Gengis Grenier.
Allô, Gengis Grenier.
Bonsoir, Denis Martin, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Alors, on parle de santé, on parle de la santé des personnes trans.
La transsexualité, l'identité de genre. Et je me rappelle de t'avoir demandé, voilà un an ou deux, quand on avait débuté ensemble, puis tu m'as dit, tu sais, Gengis, c'est un sujet sensible, faut faire attention. Puis je suis content de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
Oui, faut faire attention parce que nous ne sommes pas, ni toi ni moi, nous sommes des personnes trans. Alors, on va pas parler en leur nom, mais on peut quand même parler du fait que tu es une personne professionnelle de la santé, tu es infirmier, puis tu vois des personnes trans régulièrement à ta clinique.
J'en soigne régulièrement, j'en ai dans ma clientèle régulière, oui.
Oui. Et à la lumière de tout ce qui a été dit, d'ailleurs, on a parlé la semaine dernière, puis la semaine d'avant, d'un fameux reportage Trans Express de Radio-Canada qui a démontré des failles majeures dans notre système de santé vis-à-vis des personnes trans.
Et là, on pourra en parler jusqu'à demain matin, pour vrai.
Puis je veux quand même que les gens sachent que j'ai travaillé à Radio-Canada, je ne défends pas ce reportage-là, mais j'ai quand même été éberlué de voir qu'une personne trans trouve pas de professionnel de la santé dans le public, doit aller dans le privé, et là, c'est un peu n'importe quoi, et il y a des risques à ça, puis je pense que c'est ça qu'on veut éviter.
Ouais, c'est dans le fond, puis si jamais je dis des choses qui ne te plaisent pas ou qui pourraient te plaire à ceux qui nous écoutent, je veux que tu me le dises tout de suite.
Oh, ouais, regarde, on va y aller. Allons-y.
C'est bon. Tu sais, si on se rapporte un peu aux idées de base, là, tu vas me voir arriver dans une espèce de gros coq à l'âne, mais je pense que c'est important de revenir à la base des choses. Parce que y a beaucoup de violences haineuses en ce moment dans le monde envers les personnes trans. Ils ont de la misère à se faire une place dans les pays un peu plus industrialisés, développés. Ils prennent un peu plus de place sur la place publique, mais reste que dans le reste de notre planète, il y en a qui sont vilipendés sur la place publique, qui se font brûler. Il y a des meurtres quand même atroces qui peuvent être commis contre les personnes transsexuelles. Puis quand on regarde l'histoire de notre humanité, là tu me vois arriver avec mon gros coq à l'âne, on regarde, mettons, les grands empereurs de Rome. Dans la dernière lignée des Severius, il y a quand même eu Hélio Gabal, jeune adolescente trans, qui a quand même régné pendant 4 ans. Puis ça a été le ou la seul empereur de Rome qui a demandé une réassignation de genre. Fait que c'est quelque chose qui nous suit depuis longtemps. Ça a toujours été présent. Puis selon les cultures qui ont peuplé le sol de notre planète, ça a été plus accepté, moins accepté. Puis là, on sort comme d'une espèce de on est dans une société où ce que la religion a pris beaucoup trop de place pour la monogamie, puis pour des raisons de gestion, de contrôle sanitaire, où ce que on comprenait pas trop comment que les maladies vénériennes se propageaient à l'époque. Pour revenir aujourd'hui, sachant que ça a toujours été là, puis que pour des raisons culturelles, les gens ont des opinions très peuvent avoir des opinions virulentes, comprennent pas pourquoi que ces gens-là, tu sais, que la population trans puissent avoir des droits. Commençons par ça. Il y en a que pour eux... moi, j'ai de la clientèle qui me dit « J'ai beaucoup de misère à comprendre pourquoi que tu soignes des gens comme ça. » Je me fais dire ça par d'autres types de clientèle. Fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de méconnaissance de la part des professionnels de la santé à un tel point où ce que l'Institut de recherche nationale de la santé du Canada publie des mémos dans lesquels on invite les professionnels de la santé à aller recevoir des formations, soit pour se familiariser avec la santé trans et tout ça. On parlait de Radio-Canada un peu plus tôt dans l'émission aujourd'hui. Radio-Canada, l'année passée, publiait un petit article dans la presse canadienne. Là, ça va faire un an pile aujourd'hui. Tu sais, comme de quoi que suite à la gestion de la COVID-19 là, entre 2020 et 2023, 67% des crimes haineux ont quand même été dénotés en augmentation envers la population LGBT. Puis seulement moins d'une personne sur deux qui ont réussi à être sondée chez la population trans était capable de recevoir des soins. Moi, ce que je vois dans ma clientèle, c'est que ma clientèle aisée ne reçoit aucun soin au Canada. Ils se déplacent dans des pays un peu plus ouverts sur la culture trans, comme la Thaïlande, la Corée du Sud, vont très loin sur la planète. On parle pas de parcourir
des distances. Ça coûte moins cher aussi.
Ça coûte moins cher. Peut-être en Thaïlande, peut-être en Colombie, mais en Corée du Sud, c'est pas donné. Là. Okay. C'est pas donné. Ils vont chercher leur hormonothérapie sur le marché noir.
Mais pourquoi?
Il y a beaucoup de méconnaissances chez les professionnels de la santé locale ici. Puis, je pense qu'il y a un mea culpa à faire. Je ne sais pas si j'ai le droit de m'excuser au nom de tous les professionnels de la santé du Québec, mais Je pense que les ordres professionnels et les collèges professionnels ont un rôle à jouer dans leur mandat de protection du public et devraient peut-être se doter d'un sous-mandat, tu sais, par rapport à la population transsexuelle ou transidentitaire, pour au moins accroître un peu, rendre plus accessibles les formations là, de familiarisation avec les communautés trans là, au Québec et au Canada.
Parce que j'imagine qu'une personne trans arrive, a besoin... avant de commencer là, une personne qui souffre de dysphorie de genre, ça commence là, a besoin de soutien, n'est pas... Tu sais, si tu vis dans un milieu où déjà c'est pas très ouvert, t'as peut-être pas le goût d'aller voir ton médecin de famille. Hein.
Écoute, comme tu as bien commencé ça, tu as dit on va commencer là, ben ça commence mal, Denis Martin, parce que là, je sais que je travaille dans plusieurs milieux différents. Je veux pas qu'on vise un milieu de travail en particulier que d'autres. On est large, j'ai vraiment plusieurs employeurs à différents niveaux. Puis j'ai déjà entendu dans un cabinet médical une patiente qui arrivait puis qui voulait recevoir une hormonothérapie pour une éventuelle transition. Puis le médecin a répondu très mathématiquement ou très froidement à la patiente. Il lui a répondu d'un ton quand même assez bête. Moi, j'ai trouvé ça bête. Puis je suis quand même quelqu'un d'assez souple dans vie. Mais je l'ai trouvé bête. Il a dit « La dysphorie de genre est le trouble identitaire de la sexualité le plus grave que l'on connaît en psychiatrie. » Il dit, tu sais, déjà que les endocrinologues sont pas accessibles, les psychiatres sont pas abordables, avoir le référencement pour commencer une thérapie de soins, disons ça comme ça, au Québec, il y a quelque chose, là, c'est comme un parcours du combattant interminable. Moi, mes patients me disent, ben non, j'ai fait un petit voyage au Mexique 2 semaines en hormonothérapie, le nez, les hanches, la face, tout est refait, tu sais.
Ouais, il faut avoir de l'argent pour ça.
Faut avoir de l'argent, puis c'est ce que Mirabine a dit, tu sais, c'est intéressant parce que la chaire de recherche fait quand même beaucoup de recherches Santé Canada, l'Institut national de la santé publique. T'sais, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup. Puis t'sais, moi, ce que je vois en première ligne, c'est les classes sociales parmi la population trans. C'est les personnes aisées, les personnes... T'sais, qui a les moyens? Qui va chercher ça à l'étranger? Pourquoi qu'on n'est pas capable de distribuer ça ici? Qui réussit aussi à obtenir ces soins-là de leur médecin de famille? Quelle approche a été faite et tout? C'est quand même tout aussi divers que varié. Mais reste que, le fameux mot « transphobie », t'sais, qui est surtout issu de la méconnaissance puis du manque d'information aux professionnels de la santé pour prodiguer des soins spécialisés est complètement... La méconnaissance est là, les connaissances approfondies sont complètement absentes. Vraiment.
Ouais. Là, on parle des médecins, mais je veux parler de tous les niveaux, tous les professionnels de la santé. Mais ils apprennent quoi à l'école? On ne leur parle pas de ces choses-là, à l'université?
La dysphorie du genre, c'est le DSM-5. Là, c'est une... Moi, écoute, juste avant de venir ici, j'ai ouvert mon manuel de psychiatrie qui m'avait été vendu en soins infirmiers en 2008. Je pense que c'est en 2008 que j'avais fait mon cours de psychiatrie. Le manuel datait d'un petit peu d'avant, puis il était vraiment dans une rubrique psychiatrique comme un trouble de la santé mentale. On a déjà fait des gardes d'établissement de gens qui...
Mais c'est plus là maintenant, là.
Non, on en est plus là, mais reste que... ça me fait penser un peu à l'homosexualité. T'sais, dans les années 70, on a été dépsychiatrialisés. Oh, qu'on en est rendu là avec les communautés transsexuelles.
C'est 90
qui a été dépsychiatrisé. Oui,
fait que j'étais malade mentale pendant très longtemps.
Et non, mais c'est ça l'histoire. Puis tu sais, je reviens à mon petit Elio Gabal de 14 ans, là, empereur de Rome sous la lignée des Severius. ça fait longtemps, ça fait des milliers d'années, là. Ça fait des centaines d'années. Ça a toujours été là. Ça a toujours été présent dans notre histoire. Pourquoi serait-ce un problème de santé mentale si une personne veut se donner les moyens pour ressembler à s'identifier au sexe opposé? Moi, j'ai...
Ou ni un ni l'autre?
Tu sais, ni un ni l'autre, c'est vrai. Quand que je regarde ma clientèle trans, ma clientèle non-binaire et tout ça, c'est des gens qui sont aussi flamboyants que ma clientèle cisgenre hétéro-gay, tu sais. Moi, je vois pas grand trouble en psychiatrie. Moi, je trouve que ça suit un peu le chemin de la dépsychiatrialisation de l'homosexualité. Le jour où ce que la transsexualité, la transidentité, la dysphorie de genre va être dépsychiatrialisée, il va y avoir... un plus grand intérêt ou un plus grand amour thérapeutique de la part des professionnels de la santé.
Mais c'est pas un peu le reflet de notre société, ce qui a encore beaucoup à faire pour rendre pour que ces personnes-là soient plus acceptées dans nos sociétés.
Oui, parce que, tu sais, dans le fond, cette espèce de haine-là qui est transposée sur des gens dont dont on connaît rien, c'est un peu la peur de l'autre en soi. C'est un peu les mêmes...
Moi, je peux vous le dire, j'en connais beaucoup de personnes trans et non-binaires, puis vous gagnerez tout le monde à connaître ces gens-là.
C'est, oui, sont c'est, tous c'est, fun c'est, que... sont, moi, c'est mes patients que j'ai le plus hâte de revoir.
Moi, ce que je te disais, ils sont aussi gentils puis aussi fous qu'on peut l'être.
Vraiment.
Il faut arrêter là, d'avoir de ces préconceptions.
Non, mais c'est un peu les mêmes motivations haineuses qui motivent un peu la peur de l'islam, la peur, cette espèce de racisme ou homophobie. La peur de la transsexualité repose à une peur en soi. Ça serait de se poser ces questions-là. Est-ce que moi, je serais capable de m'identifier au sexe opposé? Oui ou non? Je pense que c'est des... Non, mais c'est des questions qu'un adolescent ou quelqu'un dans sa vie peut se poser, le droit de se poser comme question. Puis la réponse, non, je m'identifie à ce que je suis, comment je suis né, mais c'est correct de se poser la question aussi. Il n'y a pas d'interdiction à se poser une question aussi fondamentale. Là.
Non, mais moi, je me fais toujours dire, ben là, je comprends pas, mais on te demande pas de comprendre.
On t'accepte toi, hein? Fait qu'on va accepter les autres aussi, tu sais. Je pense aussi que, tu sais, le secondaire 5, c'est pas assez. On devrait rendre l'éducation obligatoire à un niveau plus élevé. Mais c'est mon opinion à moi.
L'éducation sexuelle, ça aiderait beaucoup, puis ça n'existe plus au Québec.
Non, ça a été aboli. Ça coûtait trop cher. On est en déficit. Faut couper encore plus.
Ah, qu'est-ce que c'est terrible. Mais bon, écoute, on fait bien des blagues, mais ça a des conséquences. Il y a des personnes qui se suicident, ça a des conséquences.
Le taux de suicide chez la communauté trans est anormalement élevé. Moi, ce qui me faisait mal au cœur tantôt, c'est que je lisais les statistiques là-dessus. Ils ont le taux de suicide dans les plus élevés dans la communauté LGBT. Ils ont ces autres qui sont aussi victimes de crimes plus insidieux, plus graves en matière de crimes à caractère haineux. Puis c'est pas nécessairement le genre de crime qu'on veut porter plainte. Ça demande quand même beaucoup de courage parce que non seulement quelqu'un qu'on porte plainte contre un agresseur, faut aussi faut s'assumer à 100%, être capable de s'identifier vraiment comme une personne sexuelle puis accepter son identité pour pouvoir mener à terme une telle plainte.
Intéressant, Gengis, comme d'habitude. On était deux personnes ces gens qui avons parlé des besoins des personnes trans, mais ne vous en faites pas, c'est parce que...
Ben, j'écoutais l'entrevue avec ton auteur, Mme Payette, tantôt, puis je me suis dit, je préférais quasiment que ça soit une femme ces genres qui écrive mon histoire d'amour gay qu'une personne homosexuelle.
Nous, on va s'arrêter là-dessus. On va faire une courte pause de 2 minutes. On revient après ça et on va parler de voyage en bateau. On vous mène en bateau, puis on va parler de littérature.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bonjour tout le monde, on est de retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Aujourd'hui, cette deuxième demi-heure, c'est la chronique à voile à vapeur, la croisière s'amuse, mais avant tout ça, on va dire la croisière lit. Ouais, c'est ça.
Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque.
Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
Salut Brian à Québec, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va très bien, ça va très bien. Alors, je le répète, cette émission est enregistrée parce que le 1er avril, c'est le lundi de Pâques. Et les studios de Canal M sont fermés aujourd'hui, donc on a préenregistré l'émission une semaine d'avance. Alors, Brian, on va parler de deux romans aujourd'hui. Allons-y avec le premier, Un soir d'été de Philippe Besson.
Ben oui, peut-être un livre à porter en vacances, pourquoi pas, parce qu'il est justement question de vacances dans ce livre-là. C'est le nouveau roman de Philippe Besson que vous connaissez peut-être. Moi, je le connais assez peu. Il a fait plusieurs livres. Il en a fait une vingtaine à peu près. C'est un auteur français, homosexuel. Il aborde souvent ce thème-là dans ses livres. Il y a des liens particuliers aussi avec le Québec. Un de ses derniers romans, c'était « Dîner à Montréal », où il racontait un souvenir d'un souper à Montréal avec un ancien ami. Et donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas, je sais qu'au Québec, l'apprécient beaucoup. Donc, son nouveau livre, ça s'appelle Un soir d'été, c'est paru il y a quelques semaines. Un roman sépia avec une couverture sépia, donc une image de bord de mer, des pieds qui pendent au bout d'un quai. Et là, c'est un livre où on nous dit, en quatrième de couverture, nous étions six, cinq garçons et une fille, insouciants, frivoles, joyeux, dans un été de tous les possibles. Pourquoi a-t-il fallu que l'un d'entre nous disparaisse? Donc voilà, le quatrième de couverture et le premier chapitre aussi vont en dire beaucoup sur ce qui va se passer dans ce livre-là. Il y a une disparition, mais si je veux donner le pot avant de donner les fleurs, c'est pas exactement un thriller, ce livre-là. Donc, dès le début, tout de suite en lisant la quatrième de couverture, tout de suite en lisant le premier chapitre, on devine énormément de choses sur ce qui va se passer dans ce livre-là, même s'il y a une disparition. C'est pas exactement le cœur de ce livre-là. L'écriture de Philippe Besson aussi, c'est une livre qui va laisser beaucoup d'indices. On voit ce qui va arriver. On devine même la conclusion avant qu'elle arrive. Mais je vous dirais, c'est pas si grave parce que c'est pas tant ce qui va compter vraiment dans ce livre-là. Philippe Besson, il a choisi de nous raconter une histoire qui lui est arrivée quand il était plus jeune et qui continue vraiment de le hanter. C'est pour ça qu'il a décidé de raconter cette histoire-là. Donc oui, il y a six adolescents. Il y a Philippe Besson, il y a son ami François. Il y a Christophe, un autre ami du village. Il y a le mystérieux Nicolas qui est arrivé dans le village il y a quelques mois, qui s'est accoquiné avec les amis de Philippe. Donc, quand Philippe arrive, mentionné, c'est ce village-là, il est sur une île, sur le bord de la mer. Donc, eux, ils vont là en vacances. C'est très franco-français, là, pouvoir partir plusieurs semaines pour aller à la plage et sur le bord de la mer. Donc, là, ils retrouvent sa bande d'amis. Et là, c'est ça, il y a entre autres Nicolas qui est arrivé il y a quelques mois dans le village. C'est un jeune homme qui est différent, c'est un artiste, il a un physique un peu différent, il a l'allure un peu efféminée. Il n'est pas gay, ou du moins, on ne le pense pas, mais on sent qu'il traîne un lourd bagage avec lui d'histoire de vie. Donc, on essaie de faire connaissance avec lui. Cette bande d'amis-là va rencontrer Alice, qui est une jeune touriste que François va passer. Il tombe immédiatement en amour avec elle, décide de l'inviter à ce qu'ils se joignent à leur bande. Et là, donc, Alice et son frère Marc vont se joindre à eux. Ils vont devenir une bande d'amis. Donc, ils vont sortir ensemble, faire des activités. C'est les vacances. On va dans des discos. Il y a des chansons des années 80, parce que ça se passe dans les années 80. Ça se passe dans l'enfance de Philippe Besson. Et là, donc, on sent bien cette ambiance-là, les références. Donc, c'est un peu une histoire là, d'amour adolescent. François qui a le béguin pour Alice, mais Alice, elle a le béguin pour le mystérieux et inaccessible Nicolas dont je vous parlais, celui qui vient d'arriver dans la ville. Et là, on suit un peu cette histoire d'amour-là, même si au final, ceux qui vont vraiment plus passer à l'action, c'est Philippe et le frère d'Alice, Marc. Donc, ça va être le petit moment gay du roman. Ils vont découvrir un peu les plaisirs charnels ensemble. Et là, on va suivre leur histoire jusqu'à la disparition qui est annoncée depuis le début. Comme je le disais, ce n'est pas un thriller, mais Philippe Besson arrive quand même à nous embarquer dans son histoire. La couverture du livre est sépia, le livre aussi l'est un peu. C'est un livre de souvenirs dans le passé. On parle de quelque chose d'irrésolu. Ce n'est pas un thriller, mais on a l'impression d'écouter un ami qui nous raconte une histoire qui lui est arrivée. C'est une histoire qui continue de le hanter, comme il explique. Et puis là, on est dans un peu toutes sortes de thèmes, là. Les protagonistes étaient des adolescents, donc ils se demandent est-ce qu'on aurait pu faire autre chose pour empêcher cette disparition-là, pour retrouver notre ami. Donc, c'est une histoire de vacances, de drame, et ça apporte plein de choses. On parlait d'intimidation aussi, de violence conjugale, de découverte de soi, de relations, de liens. C'est une lecture, somme toute, sympathique, mais c'est sous le sceau du souvenir pour Philippe Besson. Donc, ça va se lire très bien en vacances, je pense, ce livre-là.
Mais ça semble pas vraiment un roman tout à fait aussi queer qu'on l'aurait cru, c'est ça?
Ben, ça reste important parce que lui, il lit les personnages dans le livre. Donc là, il arrive, puis il en parle souvent, là, d'être arrivé dans ce village-là, d'avoir fait son coming out il n'y a pas si longtemps, que ça a été bien reçu par ses amis, par sa famille. Il y a sa relation avec Marc qu'on aborde beaucoup parce que là, justement, il commence à sortir entre amis. Puis là, ben, lui, il trouve plus cute, il ne l'avait pas remarqué, il se questionne sur si Nicolas l'est. C'est pas le cœur du livre, mais ça prend quand même beaucoup de place, comme dans tous les romans de Philippe Besson. Là, c'est quelque chose qui est toujours abordé, étant donné que pour lui, c'est un thème qui est intéressant. Donc, ça peut séduire un public gay, mais ça peut séduire aussi un public là, quand même plus large, parce que l'histoire comme telle touche un peu plus large que ça, puis ça va rester sur une lecture intéressante d'été, là, comme je vous disais.
Oh, et puis on aime ça, des petites romances gays. Ça fait des moments de romances gays dans les romans. Ça fait du bien. Voilà. Moi, je dis toujours, je me dis, au moins, il y en a qui ont la chance de vivre ça. Bon, OK, on va parler d'un autre titre maintenant.
Oui, un autre titre quand même plus majeur. On l'attendait, celui-là. C'est le nouveau roman d'Antoine Charbonneau de Merce. Qui a toujours une excellente couverture médiatique, on parle de lui un peu partout. C'est déjà son quatrième roman pour adultes. Moi, je trouve honnêtement que son style évolue, que sa plume devient plus incisive, la personnalité se précise. Je trouve que de roman en roman, ça devient meilleur, ça devient des lectures beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fortes. De ce livre-là, je pense que je vais garder un souvenir plus précis. Tu sais, j'ai apprécié les autres, c'était des moments de lecture, mais celui-là, je sens que je vais en garder quand même un souvenir un peu plus impérissable pour le moment, là. Roman en deux temps. Dans la première partie, Antoine Charbonneau de Merce se met vraiment en scène. C'est lui le personnage principal. Il s'appelle Antoine. Il est là. C'est sa vie. C'est du moins... Lui-même se met beaucoup en scène dans les médias sociaux, on le voit beaucoup, donc ça concorde avec ce qu'on sait de lui. Antoine Charbonneau de Merce, à ce moment-là, fréquente un garçon qui se met à lui parler de son écriture, ça va plus ou moins bien ensemble, et là, le gars lui dit « Ah, t'en fais trop quand t'écris, il faudrait vraiment que tu fasses un roman sans rien. » Donc, avec moi, arrêtez d'emprunter aux gens que tu connais, écrire une histoire plus simple ou t'imagines moins. Et là, il part avec ça, il réfléchit à ça, mais aussi, dans cette première partie-là, Antoine part en Europe. Il vient de publier son deuxième roman, et là, il s'en va voir un spectacle qui est monté à propos de ce roman-là en Europe, mais il va en profiter pour aller rencontrer des hommes qu'il a connus, des hommes qu'il a toujours idéalisés, souvent riches, impressionnants par leur fortune, leur carrière, avec qui il a parfois été amant. Mais donc, il va aller à Paris, à Bruxelles, à Berlin. Et c'est une longue suite de déceptions. Ça va être des déceptions vraiment violentes. Il ne retrouvera pas chez ces gars-là la prestance qu'il avait imaginée, la classe qu'il pensait. Il avait gardé un meilleur souvenir d'eux autres. Il va quand même se donner sexuellement à ces gars-là, aussi souvent avec leurs amis, dans des moments de sexualité là, qui sont assez violents. Le consentement n'est pas toujours respecté. On suit son voyage, il passe d'une ville à l'autre, on sent qu'il est plus ou moins heureux de tout ce qui se passe. En même temps, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, il y a beaucoup de déceptions, mais en même temps de la fierté d'être le centre d'attention de plusieurs hommes. Donc, on sent déjà tout le tiraillement excessivement gay, excessivement sexuel que subit Antoine à ce moment-là. Deuxième partie, on retombe vraiment dans la fiction. Là, on va se mettre à suivre un personnage qui s'appelle Paris Dulove, qui est un écrivain. C'est l'alter ego d'Antoine Charbonneau de Merce. Lui aussi écrit un roman. Lui aussi, c'est un twink qui est à la recherche d'amants matures, dominants. Et là, on va suivre son histoire à lui. Il a écrit un livre où il a parlé d'un riche entrepreneur immobilier avec qui il a une relation. Et c'est vraiment, il raconte sa relation à pratiquement telle qu'elle. Il va se mettre après ça à essayer de courtiser un riche auteur américain qui écrit des livres de croissance personnelle. Il va aller le rejoindre à New York. Encore une fois, le sexe est un peu bizarre. La relation de dominant-dominé est toujours là. C'est d'autres noms, c'est d'autres lieux. Cette fois, on nous dit que c'est de la fiction. C'est pas le même nom, mais c'est les mêmes archétypes, c'est les mêmes relations tordues. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc là, c'est ces deux parties de roman-là qu'on met en miroir l'un face à l'autre et ça devient intéressant comme réflexion, comme lecteur à ce moment-là. C'est pas la première fois qu'Antoine Charbonneau de Merce parle vraiment de relations amoureuses entre des jeunes twinks et des hommes matures. Là, on va encore très loin. On analyse ce type de relation-là. On cherche à comprendre pourquoi il continue de vouloir fréquenter ces hommes-là, même si c'est souvent décevant, pourquoi il continue de chercher leur protection, leur amour. C'est assez dur, c'est confrontant, c'est des archétypes du milieu gay qu'on connaît, qui existent, qu'on voit souvent. C'est un roman qui nous rend un peu inconfortable, qui nous fait poser beaucoup de questions, mais il n'y a pas que ça. C'est un roman sur les aspirations des gays, sur les classes sociales, sur le pouvoir, l'argent, le sexe. C'est vraiment, comme je le disais au début, là, c'est pas un roman. Finalement, ça s'appelle Roman sans rien, mais c'est un roman sur beaucoup, beaucoup de choses. On va parler aussi beaucoup là, d'autofiction et de réel. On est proche de Nelly Arcand. Je l'avais déjà dit, je trouve qu'il me fait penser à Nelly Arcand. Il se met beaucoup en scène. Il y a beaucoup de sexualité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Lui se met en scène. On sait qu'il se met en scène sur Instagram, dans la vraie vie. Finalement, au final, on espère que tout ça ne lui est pas arrivé. Même s'il y a beaucoup de vrai, on ne sait pas où tracer la frontière. On espère qu'il va bien, qu'il passe bien. Honnêtement, parce qu'il y a des moments où on fait comme, mon Dieu, ça fait pitié. C'est comme triste. Ouais. Mais en même temps, c'est un roman qui est tellement vrai, qui est tellement d'histoire, qui mêle tellement d'archétypes et de choses du milieu gay. C'est confrontant comme lecture. Moi, je trouve que c'est son meilleur, comme je le disais jusqu'à présent. L'histoire se tient, tout va bien.
Puis il faut rappeler, faut rappeler quand même que c'est un jeune auteur qui a déjà beaucoup de prix à son arc. Son premier roman, Coco, lui avait valu le prix Robert Clich. Et puis,
oui, il a gagné le prix du roman gay aussi. C'est un auteur très suivi, très connu. Là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va avoir un succès vraiment populaire avec ce livre-là? Comme je vous disais, la sexualité est très crue, très violente. Faut en avoir conscience en commençant la lecture. Mais oui, il a beaucoup de talent. C'est juste de savoir à quel point cette limite-là entre la fiction et le réel, là, ça apporte sa part de malaise, mais c'est ça qui rend le roman aussi très intéressant, justement. Là. Donc, à mettre dans plusieurs mains quand même, là, je sens qu'il va trouver plusieurs lecteurs avec ce livre-là, qui vient tout juste de paraître, là, ça fait quelques jours, chez VLB Éditeur. Donc, on risque d'en reparler.
Merci beaucoup, Brian Selwy à Québec.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
À la prochaine.
Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. À voile et à vapeur. Avec Pascal Chalmel de LGBTvoyage.ca.
Salut, Pascal.
Ben bonjour.
Alors, on va parler de voyage. Ça fait bout de temps qu'on ne s'est pas jasé. On s'est manqué le mois dernier pour des raisons qu'il y a un chanceux qui est allé en voyage, je crois bien. Hein?
Oui, c'est ça, exactement.
Je sais pas de qui on parle. Ben justement,
pas mal.
Oui, ben écoute, Pascal, on va justement, on va parler de bateau, tiens. On va s'amener en bateau.
Oui, tout à fait. Écoute, j'ai fait ma première expérience, moi, de croisière. On va dire qu'après 30, 35 ans de carrière, j'avais jamais fait de croisière.
Autant que 30, 35 ans de carrière, mais t'as commencé quoi? T'avais 5 ans?
Ah non, j'ai commencé, j'avais quand même 23 ans.
Aïe, aïe!
C'est ça, j'ai 58 là, donc on approche ça là.
T'approches du Tamalou, oui.
Ouais, donc écoute, c'était ma première expérience de croisière et j'avais toujours eu un peu peur, moi, des croisières, de tout ce qui était bateau, tout ça. Je sais pas si j'avais des a priori par rapport à ça. Et c'est ça, j'ai décidé de réserver sur un bateau de croisière et je peux dire, puis la compagnie que j'ai choisie pour ça était la compagnie Virgin, qui est une compagnie de Richard Branson, je pense, qui est quelqu'un qui est un homme d'affaires qui a parti juste avant la pandémie, qui a décidé de lancer une compagnie de croisière, qui est une compagnie qui a maintenant 4 bateaux. Moi, j'ai fait... j'ai pas fait un gros itinéraire, mais c'était une compagnie qui m'attirait parce qu'elle était vraiment LGBTQ-friendly, vraiment. Et j'ai vraiment pas été déçu. Je dirais que c'est une compagnie de bateaux qui est adulte seulement. Donc, pour la communauté, sur le bateau, on retrouve que des adultes. Donc, il n'y a pas d'enfants.
Il n'y a pas d'enfants.
Il n'y a pas d'enfants, contrairement à ce qu'on voit sur Norwegian ou qu'on voit sur Royal Caribbean ou qu'on voit sur Celebrity Cruise, où on retrouve bien souvent des familles. Sur ce bateau-là, c'est des bateaux, les quatre bateaux, il y a quatre bateaux qui sont faits sur tout le même format, si on veut, qui sont en tout inclus. Contrairement à certaines compagnies où tu as des ajouts, quand tu prends une croisière avec Virgin, c'est pratiquement tout inclus. Il y a des forfaits boissons. Mais l'expérience est vraiment extraordinaire. 80% des cabines sont des cabines extérieures. Donc, c'est des cabines avec balcon. Donc, tu as deux chaises, une table, un hamac. Le bateau est très moderne. Hein. C'est toute la dernière technologie de bateau, si on veut. Donc, tout est modulable au niveau dans ta cabine. Tout, que ce soit les lumières, que ce soit les stores, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. Tu fais ça avec un iPad dans le bateau. Tu sais, avant le départ, quand tu réserves une croisière avec Virgin, tu as la sélection des repas, des soupers à la carte. Je te dirais que j'ai fait, moi, beaucoup, beaucoup de voyages dans le sud. Justement, au niveau de la nourriture, ça m'inquiétait un peu parce qu'en général, je voyage quand même dans des hôtels quand même supérieurs. Et je me disais, bon, au niveau croisière, comment ça va se passer? Je peux dire que j'ai été épaté au niveau de ça. C'est pour les gens, il y en a pour tous les goûts. Pour les gens qui soient végétariens, véganes, qui aiment l'italien, qui aiment... il y a vraiment énormément de choix. Et la diversité de produits sur le bateau est vraiment... Et tu n'as pas l'impression d'être sur... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'être... Je n'avais pas l'impression d'être sur un bateau. Et puis, pour les gens qui ont toujours un petit peu peur que ça tangue ou que ça bouge, c'est vraiment minime, là. Je te dirais que c'est vraiment, vraiment minime, là.
Donc, t'as pas eu le mal de mer?
Pas du tout. Les premières journées, en se promenant sur le bateau, quand tu es dans les corridors du bateau, tu sens quand même quelque chose. Mais le soir, quand tu te couches, t'as l'impression d'être dans un... Tu dors comme un bébé sur un bateau. Écoute, j'ai fait des nuits, là, c'était incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Et ça aussi, ça me faisait un peu peur. Mais tu sais, le matin, par exemple, moi, j'ai pas fait un itinéraire. On est parti de Miami, on est à Cozumel, on a fait Playa del Carmen. Après ça, on a fait Bimini, puis on est retourné. On est resté 6 jours en mer. Mais rien que le fait d'arriver, pour les gens qui connaissent pas ça, hein, qui sont habitués au sud, le matin, d'arriver, de partir d'un endroit, de voguer toute la nuit, d'arriver le lendemain matin à quai, puis d'être dans une ville différente, c'est quand même une... Moi, je te dis que pour les gens qui sont habitués, bon, à faire du sud et qui hésitent, mais c'est sûr que faut bien choisir le produit. Et je dirais que Virgin, pour la communauté, sur le bateau, il y avait des drag queens. Tu sais, l'après-midi, il y a des spectacles. Donc, il y avait des spectacles de drag queens, des humoristes drag queens sur le bateau. C'est très LGBTQ, je me suis senti. Il y avait
mais est-ce que c'est une croisière désignée LGBT ou c'est une croisière normale?
Pas du tout.
Ah ouais?
C'était une croisière qui était, mais je te dirais qu'autour de la piscine, on pouvait peut-être y avoir un 15 à 20% de la clientèle qui était gay. Hommes, aussi bien femmes, lesbiennes que hommes, des couples. Les inclusions au niveau du bateau, bah, ça te donne, dans cette compagnie-là, ça te donne à peu près, tu as le choix de 20 restaurants, donc à peu près 5-6 à la carte. Avant ton départ, tu peux choisir tous tes restaurants à la carte. Ce qui est le fun, c'est d'essayer. Et puis, je te dis que quand tu arrives dans les restaurants à la carte, c'est sûr que ce sont des croisières. Tu sais, c'est pas des croisières à 800-900 $. Mmh. C'est des croisières qui se détaillent aux alentours de 2000-2500 pour une croisière dans les Caraïbes. Si on parle des croisières Europe, on va parler peut-être de 3000-3500 $ par personne. Mais là-dedans, tu as toutes les classes qui sont incluses. C'est-à-dire que si tu aimes faire du yoga, si tu aimes faire du... Tu veux faire des classes de méditation, tu veux faire des... Il y a tout un choix incroyable sur le bateau. Il y a juste la boisson qui n'est pas incluse. Ils vendent... Ben, attention, tout ce qui est de boisson alcoolisée n'est pas incluse. Donc, ce que tu fais avant ton départ, bon, suivant tes consommations, tu achètes ce qui s'appelle le bar tap, qui est un forfait boisson qui va avec ton bracelet parce que à l'entrée du bateau, moi, les croisières, je m'étais toujours dit, ah, ça va être laborieux, on va arriver à Miami, là, ça va être long, et puis je suis sûr qu'on va faire des lignées, puis le débarquement du bateau à chaque fois qu'on arrive, ça va être long. Écoute, c'est incroyable. On arrive là au port, 10 minutes plus tard, on était pratiquement dans la cabine, c'était incroyable comment c'était bien régularisé et comment qu'ils sont bien préparés. Quand tu arrives dans les escales, c'est la même chose. tu débarques, tu as ton passeport, tu débarques, tu sors du bateau, pof, 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 ça prend 5-10 minutes. Le retour à Miami pour reprendre ton avion, ça se fait très, très, très bien. Et à partir du moment que tu es au port de Miami, et ça doit être la même chose partout, tu es encadré. Donc, tout ce qui est bagages, tout ça, je te dis, une demi-heure plus tard, tu es dans la chambre et puis tu as tes bagages. C'est vraiment extraordinaire. Et la qualité, je dirais que la qualité des produits, la qualité des spectacles. Sur le bateau, il y a des casinos, il y a un casino, il y a une discothèque, il y a des salles de spectacle, il y a des... tu t'ennuies vraiment pas. C'est pour les gens qui ont peur. Et ils ont des très beaux itinéraires sur l'Europe. Là, on parlera de l'Europe maintenant qui s'en vient. Les bateaux partent bientôt des Caraïbes pour s'en aller jusqu'en Europe. Départ de Barcelone, par exemple. Départ de plusieurs ports. Et ils font des villes, ils font la Croatie, ils font... Alors, je trouve que c'est un produit, tu vois, pour la communauté. Moi, je ne me suis jamais senti mal par rapport à la clientèle.
Tu es allé avec ton copain, c'est ça?
Oui, exactement.
Vous êtes tenu main dans la main sur le pont et tout ça.
Il n'y avait pas de problème pour qu'on soit vraiment à l'aise, vraiment, il n'y avait aucun problème. Ils le mentionnent bien aussi dans leur publicité ou dans leur vocation au niveau de la communauté, mais qui englobe aussi bien... les trans, que ça aussi bien les couples de femmes, les couples d'hommes. Tu le vois dans leur concept au niveau. Le Richard, là, le propriétaire de cette compagnie, a voulu faire une compagnie inclusive vraiment, et ça se ressent beaucoup.
Moi, je peux te dire que j'ai fait quelques croisières dans ma vie, des croisières gays qui étaient organisées par Atlantis, qui est un produit que tu connais aussi.
Ouais.
D'abord, l'embarquement, c'était hallucinant, comment c'était compliqué, puis les files d'attente et tout. Moi, ça m'a découragé de faire des croisières dans la vie. Et j'ai aussi fait une croisière pas gay, je sais pas comment est-ce que je pourrais la décrire, avec Royal Caribbean. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un et j'avais l'impression qu'on était les animaux de cirque. Tout le monde va avoir ses photos avec nous.
Alors, vois, parce que tu vois, pour deux points que moi, je n'ai pas du tout ressenti, et il y avait beaucoup, je te dirais que 10, peut-être 15-20% du bateau, c'était quand même des couples de même sexe. Là, je te dis, on était autour de la piscine, il y a plusieurs ponts. Le soir, quand on allait au bar, j'ai vraiment ressenti, on voyait, puis tu sais, c'est une clientèle, moi, je trouvais que c'était une clientèle, une 40-60 ans à peu près. C'est pas une clientèle. Moi, les croisières, je me disais tout le temps, la croisière, je ferais ça quand je serais très vieux. T'sais, une croisière, je ferais ça. Mais au contraire, j'ai trouvé que la dynamique de la croisière était vraiment intéressante pour quelqu'un qui faisait une première croisière. C'est sûr que moi, tu me dirais, aller dans une... J'avais visité il y a quelques années un bateau à Miami qui était de Norvégienne. Puis j'avais vu les strapontins, tu sais, pour les enfants, les glissades d'eau, tout ça. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Tu sais, j'ai pas envie de vivre ce genre de vacances. Là. Tu sais, même dans mes tout-inclus, j'essaye d'avoir en général des tout-inclus adultes. C'est pour ça que ce produit-là, j'ai voulu l'essayer parce que je me suis dit, pour la communauté, ça peut être intéressant parce que... c'est un bateau adulte seulement, puis c'est des adultes quand même d'une clientèle, et puis c'est pas une clientèle non plus âgée. On n'a pas remarqué qu'il y avait une clientèle. C'était comme je dis au niveau de l'âge, comme je dis des fois à mes clients, vous inquiétez pas, tu sais, elle est abordable, elle est friendly pour les gens aussi qui sont dans la quarantaine, 35 ans. Je verrais très bien des couples de 30-35 ans sur ce bateau-là. C'est très moderne, très contemporain. Tu rentres dans le bateau, écoute, l'éclairage, tout ça fait que c'est très jeune.
Et les parties, le soir, c'est assez...
beaucoup, écoute, la discothèque, tout ça, ça bouge. Autour de la piscine, là, ils font ils mettent de la musique, tout ça. C'est très animé, c'est pas quelque chose où ils font pas du tricot autour de la... C'est vraiment pour l'animation, là. C'est un excellent produit, je dirais que c'est... un beau produit à découvrir. C'est sûr que ce n'est pas à la portée de tout le monde au niveau des bourses. Là. Je te dirais que franchement, moi, je n'en ai pas encore vendu. J'ai fait beaucoup de publicité sponsorisée sur Facebook, je n'en ai pas vendu parce que le prix va avec la qualité.
Donc, mais de plus en plus, les voyages en bas de 1200, 1500 $, c'est de moins en moins dans les tout-inclus. Alors, les croisières, j'imagine que ça va suivre ça.
C'est ça. Tu parles d'une croisière en Europe, c'est 3500 pour ça. Mais écoute, il faut voir l'inclusion. Tu sais, comme je dis tout le temps, ça va avec le prix que tu payes. Tu achètes une Audi, tu as le prix que tu payes. Tu achètes une Lada, ou ça va avec. Là, mais à recommander, puis les gens qui veulent des questions, là, j'ai adoré, puis je serais très, très bien placé pour bien les diriger.
Alors, Pascal Chamel a découvert les croisières. C'est quand même
tout à fait
hallucinant, parce que je me rappelle, tu m'avais dit que tu n'avais jamais fait ça de ta vie. Puis là, quand tu m'en as parlé,
non,
tu dis, ben arrête.
Écoute,
là,
ouais. J'espérais avoir plein de clients en revenant pour leur en parler de mon enthousiasme. Et puis là, j'avais hâte de faire l'émission pour en parler, parce que c'est tellement un beau produit. Là,
on verra ce que ça va donner. Ben écoute, Pascal
oui.
Chalmel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Pascal Chalmel de
LGBTvoyage.ca,
puis j'imagine que tu annonces ces croisières-là sur ton site aussi.
Oui, sur ma page, sur le site internet, puis je fais de la publicité sponsorisée. Les gens qui ont des questions, c'est en anglais, mais j'ai fait la traduction en français, il n'y a pas de problème, on peut bien les aider.
Ah, ben c'est super. Merci beaucoup, Pascal.
Ben, merci à vous.
À la prochaine.
Bye-bye.
Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur.
Bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 70 en ce 1er avril 2024. Oui, c'est le poisson d'avril, c'est le lundi de Pâques. Fait que je refais ma petite blague du début. On va manger des poissons en chocolat aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec nous, donc, aux adresses suivantes, heurciel en un seul mot, @gmail.com, comme vient de le dire Hélène Denis. Merci à l'équipe, Marie Massé et Godric Trob à la recherche. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Julie Curley pour la musique thème. Merci à Julie Omelette, qui est notre chef de contenu numérique qui s'occupe de nous. À la prochaine!